Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 88.4 Marmite FM, il est 17h, vous écoutez bien sûr Marmite fait son actu comme tous les mercredis. Nous sommes en direct pendant une heure pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Notre invité du jour, Jacques Fournier, directeur des itinéraires poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont il nous donnera l'actualité pour les mois de mai et juin. Dans Marmite Actu, vous retrouvez bien sûr tous vos chroniqueurs préférés. Gaël qui nous donnera la programmation du cinéma Le Grenier à celle de Trappe, Cindy qui nous parlera du film Braquage à l'ancienne, Julien Mathieu pour le flash d'actu local à 17h30 et un autre Julien de Nerveau, celui-là en fin d'émission pour un agenda des principaux rendez-vous culturels de fin de semaine à Saint-Quentin-en-Yvelines et environ. Résultat élection oblige, on reviendra sur les temps forts de la présidentielle dans le décryptage média. Mais comme d'habitude, pour commencer l'émission, eh bien un peu de musique avec Salif Keïta, le titre à demain. Il est en concert au Prisme à Elancourt jeudi 18 mai à 20h30. N'oubliez pas de prendre vos places. Musique.
C'est toi qui es mon moteur.
Marmite FM 88.4, votre émission du mercredi, Marmite fait son actu. Dans quelques minutes, on retrouve notre invité Jacques Fournier. Mais avant cela, c'est Gaël Pinault, responsable du cinéma Le Grenier à Celle, qui vous donne la programmation du cinéma de proximité.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à Celle avec Gaël.
Bonjour Nouradine, bonjour à tous. Cette semaine, je ne suis pas avec vous dans les studios, comme dit Nouradine. Dans le studio, en fait, je suis dans un autre cinéma pour une réunion pour École et Cinéma. On est en train de discuter on va discuter de l'année prochaine. Et donc, je vais vous parler des films que nous avons au Grenier à sel à partir d'aujourd'hui, mercredi 10 mai. Nous avons Gold. Gold, c'est un thriller américain avec Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard et Edgar Ramirez. Et c'est l'histoire vraie d'un chercheur d'or aux États-Unis qui ne trouve plus d'or là où il est. Il décide d'aller à Bornéo dans la jungle dense et terrifiante. Et il revient avec beaucoup d'or. Nous avons aussi pour les enfants La jeune fille et son ex. C'était un film ARC, un documentaire que l'on avait passé en avant-première dans le cadre du festival Télérama Enfants, donc au mois de janvier. C'est un très beau film. Les gens qui l'ont vu au mois de janvier ont beaucoup aimé. Et j'avais promis qu'on le reprendrait. Donc le voilà. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, ça se passe en Mongolie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui élève des aigles et elle participe à un concours de chasseurs de renards avec son aigle. Sauf que évidemment, le concours est réservé aux hommes, mais elle est quand même très très douée et c'est beau comme tout. On est dans des paysages hallucinants. Il y a un rapport à l'animal, à l'être humain qui font vraiment du bien à voir. Donc c'est un film qu'on le conseille à partir de 8 ans. Il est en version française. On a vraiment l'impression, je parlais d'un documentaire, mais on a vraiment l'impression que c'est un film d'aventure, de fiction, tellement il se passe de choses, tellement la réalité est à couper le souffle. Donc ça s'appelle La jeune fille et son aigle. Nous avons aussi Boule et Bill 2, deuxième volume des aventures de Boule et Bill au cinéma. On le conseille à partir de 5 ans. Nous avons Le potager de mon grand-père. Le potager de mon grand-père, c'est un documentaire français de Martin Esposito que l'on avait passé il y a un an et demi. Martin Esposito va chez son grand-père et il partage beaucoup de moments de vie autour du potager du grand-père. Il lui apprend toutes ces techniques, ces vieilles techniques pour avoir un potager fabuleux. Et ce film-là, nous l'avons programmé cette année pour les écoles. Donc il y a des écoles et des enfants qui sont venus le voir, qui en ont parlé en classe. Et c'est pour ça que nous proposons ce dimanche après-midi à 3 euros pour les familles, ceux qui l'ont vu et qui ont envie de le revoir avec leurs enfants, les enfants qui l'ont déjà vu et qui ont envie de le revoir avec leurs parents. Ce sera donc le dimanche 14 mai à 15h. Nous avons aussi vendredi soir, vendredi 12 mai à 20h45, Les Enfants du Paradis. Les Enfants du Paradis, le film culte de Marcel Carné avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur. On le propose dans le cadre de notre programme annuel de films de patrimoine, de films anciens, ça s'appelle Les Lumières du Grenier. Et donc ce film-là, ce sera vendredi 12 mai à 20h45. C'est un film qui date de 1945. Il est assez, il est emblématique. Hein. C'est vraiment un film important. Il est un peu long. Il dure 3 heures. C'est un film vraiment important à connaître et intéressant à regarder. Je vous l'annonce aujourd'hui. On avait prévu d'avoir quelqu'un qui viendrait le présenter, mais on n'a pas. Il vient d'annuler. Voilà. Donc c'était sous réserve et il vient d'être annulé. Par contre, on a une très très belle exposition sur le film dans nos locaux, dans la salle du Grenier à sel. Donc vous pouvez venir un petit peu plus tôt avant le film, quelques minutes avant le film, pour regarder les planches qui sont sur les murs. C'est très beau et on plonge vraiment dans l'ambiance du tournage et l'ambiance de l'époque. Nous avons un dernier film qui s'appelle Lion. Lion, évidemment, on en a déjà parlé. C'est une reprise, c'est un film qu'on a déjà passé et qu'on reprend exclusivement pour la séance du lundi 15 mai à 14h dans le cadre du Ciné-Club. On l'aura en version française cette fois. Et vous vous rappelez, le Ciné-Club, c'est une séance qui est ouverte à tout le monde et qui est suivie d'une discussion et d'une petite collation. Donc lundi 15 mai à 14h. Voilà tous les films de la semaine. Cette semaine, ces derniers jours, mon gros travail, ça a été justement de programmer les prochains films. Donc vous retrouverez tout ça sur notre site internet dès maintenant sur cinemagrenieracel.com et vous aurez bientôt le programme papier le temps qu'on le fabrique et qu'on l'imprime, donc en début de semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon après-midi et à bientôt sur Marmite FM.
Voilà, on retrouve bientôt Gaël sur le 88.4. Allez, sans transition, on passe à l'invité de la marmite.
L'invité de marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Jacques Fournier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes toujours directeur des itinéraires poétiques, parce qu'à chaque fois, comme on vous reçoit beaucoup.
C'est approche.
Non, justement, comme on vous reçoit beaucoup, les gens vont se dire, bah, c'est bon, c'est qui c'est.
Donc, vous non, êtes... bah, je suis sûr qu'il y a des gens sur le territoire qui ne savent pas qui est Jacques Fournier.
Bah, alors, vous êtes directeur des itinéraires poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, vous êtes avec nous pour nous parler des rendez-vous que vous proposez avec les itinéraires poétiques, donc pour les mois de mai et juin. Alors, au menu, il y a beaucoup de choses, hein, conférences, spectacles, ateliers, des journées d'écriture. On va faire ça dans l'ordre. On commence par une conférence lecture sur le thème Les poètes de New York des années 1960, et 1970. C'est au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, donc ce vendredi, le 12 mai.
Oui, c'est à 19h. C'est une des empreintes qu'on a imaginées cette année, c'est-à-dire des événements qui ont lieu avant d'autres événements proposés par les salles de spectacle partenaires. Ouais. Donc là, le théâtre de Saint-Quentin va proposer Run, 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 un hommage à Lou Reed par Émilie Loiseau. Ouais. Et je leur ai proposé, moi, une conférence par messieurs Broca et Brossard, qui sont deux des grands spécialistes de la littérature américaine des années 60-70 en France. Ici, ils sont directeurs de collection chez Joca Seria, qui est une des plus grandes maisons d'édition de littérature américaine. Mmh. Et donc, ils vont venir pour parler de ces poètes héritiers de la Beat Generation qui ont chauffé les rues de New York dans ces années du temps de Lou Reed et compagnie, du Velvet Underground et compagnie. Quoi. Mmh. Voilà, ça sera une heure de découverte pour ceux qui ne connaissent pas. Ça se passera dans la galerie du théâtre juste avant Émilie Loiseau.
Et c'est une conférence lecture. Hein, donc
il y aura des temps de lecture. Ils ont prévu des temps de lecture. S'ils sont maîtres du jeu, je leur fais entièrement confiance.
Alors on s'éloigne un petit peu de Saint-Quentin en Yvelines. Bon, pas trop, hein, tout de même. Direction Gif-sur-Yvette, le vendredi 19 mai. À 18h, il y aura des lectures et une projection. Donc Titan, Bonsaï ou l'extrémophile de la langue. Donc
c'est un texte qui a été écrit par Claude Baird, ouais, dans le cadre d'une résidence avec la Diagonale Paris-Saclay. Ouais. Donc sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le LATMOS, le laboratoire installé à l'Observatoire scientifique de Saint-Quentin. Donc elle a investi le laboratoire de Nathalie Carrasco qui étudie l'atmosphère de Titan, qui est un des satellites de Saturne, ouais, parce que l'atmosphère de Titan est très proche de l'atmosphère de la Terre. Il y a beaucoup de différences, mais apparemment très proche. Et donc j'ai proposé à Claude Baird, dans le cadre de cette résidence prise en charge par la Diagonale Paris-Saclay, d'écrire un texte. Et ce texte sera publié aussi aux éditions Les Lieux-Dits, une maison d'édition de Strasbourg, avec des photos d'Adrienne Hart prises dans le laboratoire et retravaillées par Adrienne. Et on fera avec Claude et moi, nous ferons une lecture dans le cadre du festival Curiositas. C'est un festival qui mêle art et science pendant quelques jours sur Gif, sur Yvette et les environs, voilà, sur le plateau de Saclay, donc en proximité des universités. Et nous sommes associés à ce festival et je suis très heureux. Et par ailleurs, nous allons retrouver Claude Baird, je vous dis tout de suite, le 18 juin, toute la journée du 18 juin dans le parc du château de la Bretechelle à Plaisir, avec la bibliothèque de Plaisir, pour une journée d'écriture, notre journée d'écriture organisée avec les amis des médiathèques, toute la journée de 9h30 à 17h30. Il y a un buffet et puis on écrit en extérieur s'il fait beau, sinon on sera à l'intérieur du château.
Manger
et écrire, c'est essentiel. oui, c'est j'ai pris quelques kilos depuis que j'occupe ce poste.
Alors un autre temps fort, c'est le 20 mai, donc à la ferme du Mousseau, à Élancourt, avec Yves Godin et Emmanuel Boblet. Il s'agira d'inventer une autre façon de partager la culture, c'est-à-dire...
Alors, nous ne sommes pas à l'initiative de ce projet. Ça, c'est un projet qui est mené par la ville d'Élancourt. Nous sommes associés à la ville d'Élancourt, et j'en suis très heureux, avec l'école d'art et l'école de danse de Thérèse-Marie David et dirigée par Marie Laveau. Nous avons, nous, proposé l'intervention dans l'année de Yves Godin, poète et rhapsode, bien connu maintenant sur ce territoire, pour organiser des insurrections poétiques et pacifiques. Que vous avez déjà reçu ici. Et nous avons proposé aussi l'intervention et l'exposition actuelle, jusqu'au 21 mai, d'Emmanuel Boblet, une artiste qui habite à Buc, que nous avions déjà exposé à la Maison de la Poésie. Pardon, à Feu, la Maison de la Poésie. Mmh. Et donc, sur le thème du mouvement. Donc, ils ont mené des masterclass, ils ont rencontré des profs. Et donc, ils reviennent le 20 mai pour cette journée qui s'appelle Courant d'art. Nous ne sommes pas porteurs de la journée, je le dis bien. Nous sommes seulement partenaires et j'en suis très heureux. Voilà. Et Yves sera là pour donner à entendre des textes comme il sait le faire. Emmanuel sera présente aussi. Il y aura aussi le théâtre de Cher qui donc occupe le théâtre de la ferme du Mousseau. qui fait un travail remarquable aussi sur ce territoire, et ça se sait pas. Donc voilà, ces trois partenaires seront présents pendant toute cette après-midi pour donner à voir et entendre la culture autrement, c'est-à-dire sous la forme de la peinture, du dessin, de la voix, de l'oralité, du texte, etc., etc.
Le 7 juin, ce sont les collégiens de Saint-Quentin-en-Yvelines qui seront à l'honneur avec la remise du prix Saint-Quentin-en-Yvelines des collégiens lecteurs de poésie d'aujourd'hui. Donc c'est au Prisme à Élancourt. Il avait disparu, hein, ce prix.
Parce ça s'appelait
on connaissait le prix Poésie-Yvelines.
Voilà. Poésie-Yvelines des collégiens que nous avions initié avec le conseil départemental, mais comme le conseil départemental n'a pas souhaité renouveler sa subvention en 2015, nous avons suspendu le prix Poésie-Yvelines et le prix Poésie-Yvelines des collégiens. Et j'ai proposé de remettre ce prix sur le grill, je dirais, en le proposant aux collégiens de Saint-Quentin-en-Yvelines et du Ménil-Saint-Denis. Mm-hmm. Et donc, nous avons 5 classes qui ont répondu présent, plus le groupe des clubs jeunes théâtre et poésie de Michel Chosereau. Et donc, ils sont en train de choisir. Ils me donnent normalement demain, date limite, leur réponse, leur choix. Et on fera le calcul pour savoir qui est lauréat parmi les 4 livres sélectionnés.
Et pour les inviter ensuite.
Alors, ils seront invités donc le 7 juin, ça sera au Prisme. Alors il n'y a pas de place, mais on a fait l'annonce parce que c'est important de le faire savoir ce qu'on fait aussi. Surtout ce genre d'événement qui est plutôt la partie immergée de l'iceberg, et on aime le montrer aussi de temps en temps.
Alors pour les curieux, hein, il y aura donc 4, il y a 4 ouvrages, hein, vous venez de le dire. Donc S'il existe des fleurs de Cécile Guévarch, oui. Falaise de Mélanie Leblanc, Les rumeurs de Babel d'Yvon Lemaine et Orange sanguine de Laure Morali. Donc voilà.
4 livres, et voilà. Livres. Et puis,
les collégiens vont.
Que je leur ai présenté, sur lesquels ils travaillent actuellement, et ils nous donnent les résultats demain.
Puis il y aura le vote, voilà.
Donc voilà, il y aura le vote. Mais on annonce, nous, que le 7 juin, qui est le lauréat, ou la lauréate.
Il n'y aura pas de fuite.
Non, il n'y aura pas de fuite. On n'est pas à Cannes ici.
On n'est pas à Cannes. Alors, les ateliers littéraires de Port-Royal, donc ça, c'est le même jour, le 7 juin, puisque je ne l'ai pas précisé, mais bon, la remise du prix, c'est le matin au Prisme à Élancourt. Et puis, l'après-midi, donc, il y a des ateliers littéraires de Port-Royal. Alors, c'est quoi le concept de ces ateliers?
Alors là aussi, c'est pas moi qui organise, nous sommes partenaires, comme souvent, ouais. Puisque maintenant, notre situation fait que nous travaillons comme nous l'on faisait avant, avec tout le monde. Et là, donc, c'est Sylvain Hilaire, donc responsable du centre de ressources et d'interprétation de Port-Royal, qui m'a sollicité pour demander à la comédienne Véronique Elena Malvoisin et au conteur et poète Marion Urbanet d'intervenir auprès d'un groupe qui serait là en début d'après-midi, constitué d'adultes et d'enfants, pourquoi pas, on l'espère, d'une famille, pour travailler la mise en voix de textes de jeunesse de Jean Racine. Mm-hmm. Parce que bon, voilà, ces textes-là ne sont pas du tout connus. Et dans le cadre de ces ateliers littéraires, donc il y aura cette mise en voix, et ensuite sera proposée à 16h une lecture déambulation, s'il fait beau, on l'espère, dans le parc de Port-Royal, dans les jardins de Port-Royal, une lecture déambulation par les personnes qui ont travaillé avec Véronique Elena et Mario Urbanet. Voilà, donc c'est une première approche que l'on a reprise avec, c'est vraiment une reprise d'approche avec Port-Royal, avec lequel nous avons énormément travaillé les années précédentes. Mmh. Jusque 2015, on s'est un petit peu perdu de vue l'an dernier, puis on reprend un petit peu du lien cette année. On espère qu'on arrivera à recommencer à relever d'autres projets pour l'année prochaine.
Et puis c'est l'occasion de visiter ce très beau site.
Ah, hein, c'est un lieu magique, c'est un lieu complètement habité par Racine et par Pascal, mais aussi par la poésie est présente derrière chaque arbre et dans chaque allée.
Alors, on ne l'a pas donné pour tous les autres rendez-vous, mais bon, là, j'y pense. Donc, les inscriptions, c'est à partir de 12 ans. Le numéro de téléphone, le 01 39 30 72 73. 01 39 30 72 73. Et puis, on vous donnera l'adresse à la fin de cet entretien. On termine la saison. Donc, le rendez-vous est à plaisir au Parc du Château. C'est le 23 juin.
Oui.
Pour ce que j'ai appelé un pique-nique poétique.
Hein. Voilà, un raout poétique. C'est la conclusion d'un partenariat très dense que l'on a mené avec la Ville de Plaisir et les Bibliothèques de Plaisir. Et je tiens à remercier ici Catherine Perrault, la directrice des bibliothèques, qui nous a fait entièrement confiance. On a mené avec elle le projet autour des mots de la langue française en mars et en avant mars d'ailleurs, puisqu'il y a eu des ateliers menés auprès d'une classe de collège, d'une classe d'école, auprès de groupes d'adultes, d'adultes en apprentissage de langue française, ASL, atelier sociolinguistique. Et donc, ils ont travaillé autour de ces mots-là. On a récupéré les textes et avec le comédien Laurent Searle et Véronique Elena Malvoisin, on a enregistré une partie de ces textes-là à la clé des champs. Et tout cela va être monté sur un CD. Tous les textes vont être imprimés aux éditions Mazette de Gilles Cheval, installés à plaisir, de Gilles Cheval et Floriane Fagot. Floriane a mené des ateliers plastiques dans la bibliothèque sur le même thème des 10 mots de la langue française. Et les livrets contenant les CD seront remis le 23 juin à 19h à tous les participants de ces ateliers. Et tout le monde, même d'autres personnes, sont invités à venir pour découvrir ces textes qui seront lus par Véronique Elena Malvoisin qui sera présente, qui seront distribués, et il y a un pique-nique, chacun amène son pique-nique, et puis il y a un concours, puisque les mots de la langue, c'était les mots d'Internet, un peu partout en France, au Québec, en Afrique noire, en Afrique du Nord, et le thème, c'était de faire un concours de gâteau sur le thème des émoticônes. Voilà, chacun va faire son petit émoticône sur son gâteau en sucre glace, ça va, et on sort de là après avoir bien mangé, bien entendu.
C'est ça. Pierre a de belles couleurs, des belles créations.
Des belles créations, j'en suis sûr, mais c'est le petit plus que propose la bibliothèque, je trouve ça assez sympathique.
Alors, on le sait, hein, Jacques Fournier, une saison pour les itinéraires poétiques, ça se prépare hein, longtemps en avance. Vous êtes déjà sur la saison prochaine. Oui. Vous pouvez nous faire quelques petites annonces ou bien tout est secret pour l'instant?
Bah, les petites annonces, c'est qu'on renouvelle le partenariat avec les autres espaces culturels tels que la scène nationale, la ferme de Bel et Bas, le Prisme, mais
ça,
on espère aussi la ville de la Verrière et Magny-les-Hameaux et d'autres encore, hein, ceux qui sont prêts à travailler avec nous. On renouvelle pour la 7e année la semaine des écrivains persécutés, emprisonnés, empêchés, parce qu'il y en a toujours en prison. Donc on accueillera là 3 écrivains, enfin 2 écrivaines et un écrivain. Pour une grande soirée qui aura lieu au Prisme le 15 novembre à 20h. Donc là, il faut réserver sa place. On sera très vite à l'étroit et j'en suis très heureux. Donc le 15 novembre, 20h au Prisme pour cette soirée consacrée à 3 écrivains. Une vient de Syrie, une de Tchétchénie et l'autre vient du Kurdistan de Syrie, avec une magnifique musicienne qui s'appelle Naïssam Jalal, qui est une jeune musicienne franco-syrienne de flûte traversière, qui fait un travail remarquable à la fois dans le traditionnel et dans le jazz. Et donc voilà, ça c'est déjà mis en place, et on aura des partenariats avec d'autres lieux, bien sûr la fête de la science, bien sûr très certainement la fête du conte, et puis le printemps des poètes en mars 2018, le 20e du nom, sur le thème ardeur, mais ardeur au pluriel, donc ça va être très chaud.
Ça va être très chaud, bien. Un regard un peu taquin quand vous dites ça va être très chaud. Les infos pratiques pour terminer, Jacques Fournier,
alors le site itinéraire.sqy.fr.
Voilà, et le kiosque aussi.
Et le kiosque,
kiosque.sqy.fr.
Voilà.
Voilà, pour réserver.
Oui, c'est la meilleure façon de faire, c'est d'aller sur le site et de trouver toutes les informations dessus, quoi. Sinon, il existe un programme papier que l'on peut trouver dans toutes les bonnes salles de spectacle et toutes les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Et même à Marmite FM.
Et même à Marmite, oui. En cherchant, on trouve.
Merci en tout cas à Jacques Fournier d'être venu nous présenter à l'actualité des mois de mai et juin.
Merci en tout cas à Marmite de nous soutenir tel qu'elle le fait depuis des années, et on sait que ce partenariat va se prolonger.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Marmite FM 88.4, il est 17h passé de 23 minutes. On marque une deuxième pause musicale. On écoute Carmen Maria Vega. Le titre, Le Grand Secret, elle sera un concert à la batterie de Guyancourt avec Sohan en première partie le samedi 20 mai prochain à 20h30. Musique. Secret qu'on a bien gardé.
De l'autre côté de la forêt, et ce depuis des années. Alors je suis rentrée, mais je ne connais toujours pas. Non, je ne me connais pas. Non, je ne connais toujours pas le secret de mon identité.
Marmite FM 88.4, il est 17h passé de 27 minutes. Vous écoutiez à l'instant Carmen Maria Vega avec le titre Le Grand Secret. Elle sera en concert, je le répète, à la batterie de Guyancourt avec Soane en première partie, donc le samedi 20 mai à 20h30. La batterie fête ses 10 ans, donc je crois que c'est. Voilà, tous les concerts sont à 10€. Si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises. Je corrigerai d'ici la fin de l'émission. Parce que si les gens se présentent à la batterie qui disent si le monsieur de Marmite FM nous a dit que c'était 10 euros. Voilà, bon, allez, je prends pour moi. J'inviterai tout le monde. Salut Julien.
Salut Noradine. Bonjour à tous.
C'est l'heure du Flash Info.
Nous sommes le 10 mai et c'est la journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. C'est le président de la République Jacques Chirac qui a fixé cette date du 10 mai, qui correspond au jour de l'adoption en 2001 de la loi Taubira par le Parlement. Cette loi permet donc enfin la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Entre le 15e et le 19e siècle, les Européens ont emmené de force entre 10 et 12 millions d'Africains en Amérique par bateau. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Les colons ont en fait besoin d'exploiter en abondance des ressources naturelles qu'ils ne trouvent pas sur le territoire européen, afin évidemment de s'enrichir. Alors, le nouveau continent vient tout juste d'être découvert par Christophe Colomb. Dans un premier temps, le blanc se sert des Indiens pour les tâches difficiles, mais ces derniers succombent vite aux maladies amenées d'Europe par les colonisateurs. Alors pour assumer les récoltes de café, de coton ou de sucre, on se tourne alors vers l'Afrique. Une fois arrivés en Amérique, les esclaves sont vendus à des propriétaires. Seulement, la France se trouve face à un problème de taille. La loi interdit tout esclave sur le sol français depuis le Moyen-Âge. Influencé par Madame de Maintenon, qui a vécu en Martinique, Louis XIV va donc autoriser la traite négrière. Un texte valide cette nouvelle législation, c'est le Code Noir. Les esclaves sont considérés comme des biens meubles, cela signifie qu'on ne les considère pas comme des êtres humains. La condition d'esclave est héréditaire, le texte est appliqué aux Antilles, en Guyane, à La Réunion et aussi en Louisiane, qui à l'époque est un territoire français. Le Code Noir est abrogé à la Révolution, puis remis en vigueur par Napoléon Ier. Il faut attendre 1848 pour que soit aboli l'esclavage grâce à un décret du gouvernement provisoire de l'époque. 170 ans plus tard, il n'y a toujours aucun musée en France sur l'histoire de la traite négrière, mais il y a tout de même des associations qui se battent pour entretenir cette mémoire, notamment au sein de notre agglomération. Le collectif pour la semaine de la mémoire de l'esclavage clôt sa 9e édition aujourd'hui au Scarabée de La Verrière. Entre 19h et 20h, vous pourrez découvrir une exposition sur les figures féminines des luttes contre l'esclavage. Et puis à 20h, un grand spectacle intitulé Gorée, mis en scène par la compagnie Marie Mendy. 10€ pour assister au show avec la chorale Les Alizés en première partie.
L'actu en bref, Julien.
Du 13 au 21 mai, Voisin le Bretonneux organise sa semaine du développement durable. Au programme, un atelier de sophrologie samedi, une conférence sur les plantes médicinales dimanche, ou encore une conférence sur les énergies renouvelables le mardi, et bien d'autres choses encore. Les inscriptions sont obligatoires et s'effectuent directement sur le site de Voisin le Bretonneux. Etinov, c'est le nom de la start-up Trappist qui a créé une montre connectée pour les personnes atteintes de Alzheimer. L'innovation permet de capter le pouls et la température des malades, cela afin d'éviter les AVC. La montre contient aussi un système de géolocalisation pour prévenir des fugues. L'élan courtois Adila Mohumadi a reconquis vendredi dernier en Espagne son titre européen des poids super moyens. En battant Mariano Hilario, il récupère donc sa ceinture de champion perdue au printemps 2016. Benoît Hamon devrait se lancer dans la bataille des législatives. Il retrouvera notamment Jean-Michel Fourgous, maire d'Elancourt et membre des Républicains. Autre candidat face à lui, Luc Miseret du PCF, Mathilde Androuet du FN et Sylvia Cantalupi de Debout la France. Un peu plus de 77% oui, des Yvelinois ont préféré Emmanuel Macron à Marine Le Pen dimanche dernier lors du second tour de la présidentielle. La candidate FN totalise quant à elle presque 23%. Alors 7,7% des inscrits sont allés voter blanc ou nul et pas loin de un quart des inscrits se sont abstenus. Cela signifie que si on comptabilise le nombre total des inscrits, c'est-à-dire si l'on considère les votes blancs ou nuls et l'abstention, Emmanuel Macron est élu à tout juste 53% des voix. Et puis en ce qui concerne l'agglomération de Sky, au premier tour, Emmanuel Macron terminait en tête des suffrages, sauf à La Verrière, où il était dépassé par Jean-Luc Mélenchon, mais aussi par le nombre très élevé d'abstentionnistes. Au second tour donc, toutes les villes de l'agglomération ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron, et ce, malgré l'abstention. C'est à Montigny et à Voisins que le président élu obtient le plus de voix, avec 59% environ, ce qui n'est pas non plus mirobolant, c'est peut-être dû aux chiffres d'abstention d'ailleurs, qui sont à peu près similaires à ceux du premier tour, aux alentours de 20%. Le record d'abstention, c'est plus de 35% à La Verrière et presque 34% à Trappes, des chiffres qui font écho à ceux du premier tour. C'est d'ailleurs dans ces deux villes que Marine Le Pen obtient le moins de suffrages. Tous les résultats sont à retrouver sur le site de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est d'ailleurs très bien fait puisque les votes blancs et l'abstention sont comptés dans le pourcentage.
Merci Julien. Allez, sans transition, 17h33, on passe au décryptage média.
Tout de suite, le décryptage média.
C'est le décryptage média.
Les analyses sont en cours.
Décryptage média.
La chronique de
Nouradine.
Un décryptage média un petit peu spécial hein, cette semaine, présidentielle 2017 oblige. C'est certainement la présidentielle la plus bizarre, une des plus bizarres qu'on ait vécu en tout cas ces derniers temps. Et du coup, on va faire un petit peu, voilà, un petit retour en arrière. On va, avec toi Julien et peut-être Cindy qui va arriver, voir un petit peu les temps forts de cette campagne vraiment très bizarre. À commencer par l'éclosion de la candidature de notre président actuel, donc Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, a démissionné fin août de son poste de ministre de l'économie et a ensuite lancé voilà, toute sa campagne présidentielle. Alors, déjà, personne ne voyait cette candidature venir et pourtant convaincre Julien. Et pour vous convaincre, vous aussi, chers auditrices et auditeurs, je vous propose d'écouter un petit florilège justement de la candidature Macron lancée. Qu'en pensaient à l'époque les principaux responsables politiques ? On écoute.
Macron, il est aujourd'hui, il n'a pas la puissance, il n'a pas l'expérience, il n'a pas la préparation.
Parce que la bulle Macron est en train d'éclater.
Emmanuel Macron, c'est un candidat sérieux pour vous ?
Non. Je vais vous dire très clairement non. Parce que c'est le candidat des banques. Voilà. C'est le candidat, un des candidats des banques, un des candidats de ce créneau quand même ultra-libéral, qui est complètement contre-courant de ce qui se fait dans le monde d'ailleurs. C'est un créneau assez has-been, assez...
Je suis absolument sceptique sur cette affaire. Et quand je dis sceptique, c'est le mot le plus modéré que
alors,
je puisse...
D'autres mots.
Alors je vais vous dire,
oui,
ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique.
Et ma conviction, c'est que les Français ne confieront pas leur destin à quelqu'un qui n'a aucune expérience, et surtout qui n'a rien démontré pour le moment. Peut-être qu'il va le faire, oui. Mais pour le moment, en dehors des autocars, on n'a rien vu.
Oui, mais on a...
Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense qu'en réalité, Le Pen ne fera qu'une bouchée de Macron.
Je ne pense pas qu'il le sera, parce que très sincèrement, avec ce que je viens de dire sur le fait qu'il est brillant et que c'est une perte pour le gouvernement, sur le fait qu'il participe incontestablement au débat d'idées, moi je ne vois pas où est l'espace politique. Je ne vois pas où est l'espace politique d'Emmanuel, qui globalement est apprécié à peu près par tout le monde, mais qui est aussi le deuxième choix de tout le monde. Et quand en politique on est le deuxième choix de tout le monde, ça ne fait pas beaucoup de voix à l'arrivée.
Je ne crois absolument pas à la fable que nous entendons ici et là, sur laquelle il pourrait être candidat contre... face à François Hollande. Je n'y crois absolument
pas.
Ça n'arrivera pas.
Je n'ai pas bien entendu.
Il ne sera pas candidat face à François Hollande. Je ne crois pas une seconde, et je prends le pari devant vous, il ne sera pas candidat, il sera aux côtés de François Hollande en 2017.
On a entendu donc Jean-Pierre Raffarin, Florian Philippot, Jean-Marie Le Guen, Jean-Vincent Placé, Jean-François Copé, François Fillon, et Monsieur Bayrou. Alors, pour Bayrou, c'était pas mal quand même. Ça ne marchera pas, c'est un hologramme. Il défend les intérêts financiers avant quand même de le soutenir.
Même le premier qui est...
C'est le premier à l'avoir soutenu. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs qui fait que beaucoup de gens ne vont pas voter, ne croient pas en politique. Comment on peut dire, il y a 3 mois ou 2 mois, que en gros c'est une crapule, c'est un hologramme, c'est quelqu'un qui va servir les intérêts financiers. Il le dit clairement, hein, non seulement les intérêts financiers, ceux qui ont le pouvoir économique, ça leur suffit plus, il leur faut également le pouvoir politique. Donc en gros c'est le bras droit de toute la finance qui met à genoux beaucoup de citoyens. Mmh. Et là, c'est le premier à le soutenir. Comment tu as vécu, toi, justement, ce premier soutien de Bayrou à Macron ?
Ben en fait, pour moi, c'est révélateur du fait que, comme tu le dis, la plupart des hommes politiques aiment bien mentir pour faire monter leur cote ou les suffrages qu'ils peuvent obtenir derrière. Parce que c'était le moment en fait où il fallait casser Macron en fait, parce que c'était le début de son éclosion, donc c'était le moment où il fallait être contre, et depuis effectivement il a changé d'avis, et moi pour moi c'est juste révélateur du fait que la politique de Macron va rassembler beaucoup des anciens qu'on a voulu excusez-moi du terme mais dégager sur justement ces dernières élections, y compris les primaires.
Voilà, donc ça c'est pour le soutien de Bayrou à Macron. En tout cas, il a eu le nez fin, hein, puisque c'est finalement, contrairement...
Après, ça date de quand, là, tout ce que tu as montré ?
Ça, c'est des extraits, en fait, depuis l'annonce de la candidature de Macron. Pas officielle, hein, depuis qu'on dit est-ce qu'il va être président de la République.
Depuis qu'il a quitté son poste.
À peu près au mois d'octobre, jusqu'au mois de janvier.
Ouais, voilà, d'accord.
Voilà, c'est tout ce qui se disait sur lui.
Ouais, et depuis, bon, voilà, il a monté en flèche.
Non seulement il est monté en flèche, mais en plus, il y en a certains là qui ont parlé, qui voudraient bien entrer dans le gouvernement maintenant. Donc, comme quoi, ça va vite. Hein. Autre temps fort donc, de cette présidentielle complètement folle de 2017, c'est les affaires Fillon. Alors d'abord, c'est une affaire positive pour Fillon, puisqu'il remporte contre toute attente la primaire de la droite, en battant notamment Alain Juppé. En finale, même si bon, il avait déjà écrasé tout le monde au premier tour, parce qu'il était à presque 50%.
Mais en même temps, à la limite, c'était mérité. Moi, j'ai regardé un petit peu la primaire de droite, ouais. Et c'est vrai que c'est celui qui s'en sortait le mieux. Dans tous les candidats, c'est vraiment celui qui s'en sortait le mieux.
Sur l'argumentation, notamment, il avait un programme clair, peut-être.
Oui, plus clair que les autres, clairement, ouais.
Et puis voilà, et puis le au revoir de Sarkozy, hein, Nicolas Sarkozy aussi, hein, voilà. C'est ce que ça a marqué cette primaire. Et puis l'autre, alors on va pas...
Lui, Sarkozy, c'est la déchéance totale, parce qu'après avoir perdu au présidentiel...
De 2012.
Voilà, il part dans le désert, après il revient, et là il perd carrément au primaire.
Une petite victoire politique, hein, parce que quand il revient, il réussit à prendre la tête des LR, il est élu.
Ouais, mais ça, c'est pas les électeurs LR qui l'ont permis. C'est ça justement le piège. Et je crois, il me semble que c'est lui qui voulait une primaire à droite.
Tout à fait.
Donc il s'est fait prendre à son propre jeu, quoi.
Ouais, il était peut-être persuadé de remporter
cette
primaire.
Ouais, je pense qu'il était persuadé. Ouais.
Avant de revenir à l'affaire Fillon, autre primaire et autre surprise pour cette présidentielle, c'est la primaire socialiste, donc avec Hamon, Benoît Hamon, qui n'était pas annoncé comme le favori, hein, forcément. On a annoncé Montebourg ou peut-être le coup de grâce porté par Emmanuel Valls en sortant de Manuel Valls, pardon, lapsus révélateur, Emmanuel Valls. Ouais. Manuel Valls, pardon.
Il aimerait bien devenir Emmanuel Valls.
Oui, il aimerait bien.
En ce moment.
Et finalement, c'est Benoît Hamon donc, qui s'impose. Alors, évidemment, entre-temps, François Hollande a dit qu'il ne se représenterait pas à la candidature, donc à la présidence donc, de la République, avec cette apparition un peu complètement folle à la télé où limite je pensais qu'il allait pleurer, peut-être qu'il allait lâcher sa larme en disant comme s'il avait été forcé à ne pas se représenter. Je sais pas si t'as l'image en tête.
Ouais, je m'en souviens.
Donc ça c'est pour notre ami
mais ça on s'y attendait donc bon.
Ça c'est pour notre président, voilà, François Hollande. Mais du coup la surprise vient de Benoît Hamon.
Ouais, mais alors ça c'est une surprise selon les médias, mais
oui, selon à chaque fois je parle uniquement par le presse média.
Parce qu'en vérité, Montebourg et Valls c'était des hommes de Hollande pendant quelques années. Bon, surtout Valls, parce que Montebourg il est parti assez tôt, je crois au bout de 2 ans il me semble. Mm-hmm. Mais Hamon il a fait que quelques mois, très peu, je sais plus combien exactement, mais peut-être même que 1 mois, je sais plus.
Non, un peu plus longtemps que ça.
Un peu plus, mais vraiment très peu. Il est parti, c'était le frondeur numéro 1, quoi. Donc, c'est pas étonnant que les électeurs PS qui ont été déçus de la présidence de François Hollande ne votent ni pour Valls, ni pour Montebourg. Et donc, choisissent l'autre, quoi, donc Hamon, quoi.
On récapitule donc l'éclosion d'Emmanuel Macron, la victoire de Fillon aux primaires de droite, la victoire de Benoît Hamon aux primaires socialistes, la défection de François Hollande, et on arrive à ce qui a certainement pourri cette élection, donc ce sont les affaires. Alors une affaire qui a pris le pas sur les autres, hein, puisque c'est surtout François Fillon qui a été ciblé dans les affaires, alors qu'il y avait également des affaires d'emploi fictif pour Marine Le Pen, mais c'est avant tout l'affaire Fillon. Du coup, il n'y a pas eu de débat, pas de fond. C'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être ce qui explique le résultat final de cette élection présidentielle. Affaire Fillon.
Bah ça, réagir à ça, c'était plutôt marrant.
Enfin, moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas utilisé ce mot-là, marrant.
Bah si, c'est, d'un côté, c'était en fait, il y avait tellement de choses tous les jours que ça est devenu...
Cocasse.
Cocasse, voilà. Tu vas pas, voilà, tu rigoles quoi au bout d'un moment, et puis le mec qui continue, qui s'accroche au truc.
Avec une défense un peu bizarre de François Fillon.
Ouais, mais par contre, bon, au final, il arrive quand même à finir troisième.
Mmh. Mais donc, pas suffisant pour quelqu'un qui souhaitait se qualifier pour.
Ouais, mais quand même, malgré tout ce qu'il a pris dans la figure, c'est quand même fou qu'il obtienne 20%. Hein.
Bon, faut dire quand même que avant les affaires, tout le monde mettait déjà. François Fillon à l'Élysée. Hein,
ouais,
voilà. C'était censé être l'alternance. Voilà. Après 5 ans catastrophiques de, bon, selon les termes, hein, de, voilà, ah ouais. Bien sûr, de après
on 5 parlait ans même de 10 ans catastrophiques, puisqu'on disait même que c'était le nouveau visage en fait, alors que pas du tout. C'est juste qu'il était effacé par Sarkozy à l'époque.
Ouais, premier ministre, ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy. Alors l'issue du d'abord le premier débat à 11 de ce premier tour de l'élection présidentielle, puisque c'est la première fois que tous les candidats étaient rassemblés autour, donc ça c'est aussi un temps fort de la présidentielle, autour d'une table en tout cas qui était je crois que c'était sur BFM et CNews, un débat qui était un peu bizarre également, hein, mais qui a permis d'avoir des petites, c'était vraiment du spectacle, c'était élection, c'est la première fois que je vois une élection présidentielle comme vraiment un spectacle de A à Z.
Ouais.
C'est ce qui a été retenu. Justement, on va écouter ce que dit Philippe Poutou, parce que ça a été la star de ce débat à 11 face à Marine Le Pen. Clair. On écoute cet extrait.
Ouais, quand nous on est convoqué par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous.
Voilà, cet extrait, il a été repris partout, par tous les commentateurs, par toutes les télés, la presse écrite, etc. Mais moi, je trouve que c'est terrible, dans un sens, puisque certes, peut-être qu'il va dire ses vérités à Marine Le Pen, qui disait, bon, bah, de toute façon, vous êtes protégé vous êtes syndicaliste, vous êtes protégé, etc. Et puis, on voit vraiment les gens qui applaudissent, comme un spectacle, ouais. Comme un mec qui fait du stand-up,
ouais.
Et qui va dire une vanne, une punchline en fait contre Marine Le Pen, et qui va faire plaisir aux gens, parce que voilà, ça nous fait, on aura bien aimé lui dire ça, mais qui sur le fond, c'est-à-dire sur le fond des propositions, etc., bah, ça a été complètement balayé. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait, qu'il n'y a pas eu de fond, il n'y a pas eu de fond dans cette présidentielle.
Ouais, non, c'était que... Mais par contre, le spectacle a, en revanche, suscité pas mal d'intérêt, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés... à la politique,
ouais.
Parce que avant, on disait toujours les abstentionnistes, ce sont des gens qui s'en fichent. Et peut-être que c'était vrai, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Les abstentionnistes, ce sont aussi des gens qui sont intéressés à la politique, intéressés au programme, et qui se sont dit non, je suis d'accord avec personne, donc je n'y vais pas.
Et c'est un vrai acte politique.
Voilà, c'est devenu un vrai acte politique. Donc je crois vraiment que, mine de rien, même si on peut peut-être parler d'une campagne catastrophique tellement c'est parti en vrille de tous les côtés et que la France est peut-être divisée en trois parties maintenant, ça a quand même suscité pas mal d'intérêt. C'est plutôt pas mal pour l'avenir, parce que notre premier rôle, quand même, c'est d'être citoyen.
Alors, c'est pas terminé, hein, parce qu'évidemment, il y a encore des perles à venir dans ce temps fort, dans ces temps forts de la présidentielle 2017. Premier tour, le dimanche, donc, dimanche soir, il y a les résultats. Image marquante, Emmanuel Macron, qui fait sa petite fête tranquillou, pépère, au restaurant, avec ses soutiens, comme si il venait de remporter la présidentielle. Bon, peut-être qu'il avait bien senti en même temps. Donc ça, c'est déjà une des premières images marquantes de ce premier tour, de cette issue du premier tour. Et puis, Mélenchon, avec un truc aussi un peu bizarre. Attendez les gars, c'est pas fini. Je suis peut-être pas quatrième ou troisième, mais je suis peut-être deuxième, je suis peut-être qualifié. Donc on va attendre de se prononcer. Moi, je trouvais ça bizarre.
Ouais, ça c'était bizarre.
Ah, ouais, vas-y.
Mais après, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il était vexé parce qu'il n'est pas allé au second tour, parce qu'il y croyait vraiment. C'est possible qu'il y ait cru parce qu'il y a eu tel engouement.
Attends, vexé, c'est un truc de gamin là. Je suis vexé.
Ouais, mais c'est ce que beaucoup de médias ont dit. Ouais. Moi j'ai entendu ça dans pas mal de à quotidien, notamment à RMC aussi, enfin dans beaucoup de, tu vois, de grands médias.
La déception.
Voilà, il était déçu, bon, il était vexé, c'est le mot qu'ils ont employé. Bref, en tout cas, je pense pas que ce soit ça, parce que en fait ce qu'il a dit, à ses électeurs, c'est pas à moi de vous dire pour qui voter puisque j'ai pas de mandat. En fait, c'est je suis pas votre chef.
Mais c'est pas de ça que je parlais, moi.
Oui,
moi,
oui,
je
mais...
parlais surtout du fait de dire qu'on se prononce pas tout de suite, on attend minuit les chiffres du ministère de l'Intérieur.
Ouais, bon, bah, je reviens quand même sur le fait que les gens ont dit qu'il était vexé. Parce que moi, je trouve que justement, c'était une position honnête de sa part, voilà, à dire à ses électeurs, moi, je suis pas votre chef, c'est vous qui votez pour moi, en gros, j'ai tout à recevoir de vous, donc j'ai pas à vous dire comment voter, quoi. Alors après, c'est vrai que c'est super bizarre de dire on attend encore 2 heures alors qu'on sait très bien que c'est plié.
Après donc, pendant ce second tour maintenant de l'élection présidentielle, le truc un peu lunaire, hein, un peu vraiment bizarre, c'était le débat Le Pen-Macron. Alors j'ai même pas mis d'extrait, je me suis dit ça sert à rien, parce qu'on peut résumer ça en gna 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 gna. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais pourquoi vous? Mais pourquoi pas vous? Mais vous étiez sous Hollande. Mais vous, et vous êtes les nationalistes, c'est des méchants. Voilà, c'était un gros, c'était la tonalité du débat. Alors je sais pas si t'as regardé le débat, mais c'était vraiment lunaire. Alors c'est surtout Marine Le Pen qui a été critiquée dans ce débat pour avoir eu une attitude agressive et un peu des fois elle faisait vraiment taré, hein, parce que elle souriait, elle rigolait bêtement, et puis c'était un peu c'était un peu bizarre, mais c'était sa stratégie apparemment, c'est une stratégie qui avait été décidée avec son bureau politique,
et puis, et c'est pas bête, hein, parce que en fait il s'agissait de montrer les torts de son adversaire, sauf que c'est pas passé comme ça.
Ah oui, c'est vraiment pas passé comme
non,
ça.
Non, c'est clair. C'est passé comme, elle a fait que s'attaquer à Macron et rien dire sur son projet à elle, quoi. Donc forcément, Macron, il avait juste à se taire ou à pas faire grand-chose, et c'est lui qui en sortait vainqueur, ça c'est sûr.
Et finalement, c'était pas très compliqué pour lui ce débat.
Ouais. Après, je pense quand même sur la durée, se faire attaquer pendant 4 heures et ne pas s'énerver,
ça pique.
C'était, ça pique, et ça devait être un réel exercice pour lui.
Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on retiendra, hein, de cette élection présidentielle 2017 avec... très 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 peu de fonds malheureusement, très peu de débats.
Ouais, c'est ça le problème. Alors juste pour en revenir sur Mélenchon, je pense qu'il attendait aussi les résultats finaux pour les votes blancs et l'abstention. Tu vois, pour compter, pour donner les vrais chiffres à la fin et montrer que Macron et Le Pen n'avaient peut-être pas la majorité. Après, comme ça a été le cas d'ailleurs pour Macron qui n'a que 43% de la majorité, 43% sur les totales inscrits, quoi.
Mais dans ce cas, pas la majorité. Que dans ce cas-là, pourquoi cette précipitation? Dans ce cas-là, à le dire si il aurait pu attendre 23h30 pour faire sa déclaration. Qu'est-ce qui l'obligeait à faire une déclaration à 21h ou
On va l'appeler.
Bon, En tout cas, voilà, cette élection présidentielle est terminée. Emmanuel Macron est président de la République pour 5 ans. Prochaine étape, les législatives, et ça commence bien puisqu'il y a déjà des petites bisbilles, voilà, entre Emmanuel, c'est un lapsus révélateur, entre Manuel Valls, qui veut son investiture, mais qui n'est pas pris finalement, parce que voilà, ils le prennent pas.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Voilà. Par contre, là, il est avec le PS. Je crois qu'il va se faire virer du PS. Ah bon, j'ai vu ça tout à l'heure.
Ce serait une super nouvelle. et puis le Front de Gauche qui est en train de se friter avec le Parti communiste. Donc voilà, ça, on en reparlera déjà la semaine prochaine. Mais donc, ça commence très bien avec des petits coups bas. On parlait de fonds à l'instant. Mais il n'y a toujours pas de fonds pour l'instant pour ces législatives. En tout cas,
en un mois, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Merci, Julien.
De rien.
Le soleil est entré dans la marmite. Jingle.
Bah oui, parce que moi, je voulais faire du cinéma.
Hasta la vista, baby. Vers l'infini et au-delà.
Allô?
Salut, Sydney. Quel est ton film d'horreur préféré?
Comment ça va, Cindy?
Bonjour, Noradine. Bonjour à tous. Ça va très bien. Écoute, il fait beau.
Il fait beau, bah ouais, quand tu rentres dans le studio, il fait toujours beau. Ah bah oui, on va prendre des photos, on va envoyer ça sur les réseaux sociaux pour emmener le soleil aussi chez les autres.
Il faut.
Il y a pas une petite musique là, romantique, Fred. Bref, c'est un miracle aujourd'hui que je t'annonce, Cindy. J'ai vu le film dont tu vas parler.
C'est vrai?
Ouais, je l'ai vu lundi soir.
T'as vu le bon
braquage,
ou t'as vu...
Oui, braquage à l'ancienne.
T'as pas vu le remake?
Pourquoi c'est un remake?
C'est un remake.
Ah bah tu vois, ça j'apprends des choses.
Donc voilà, en fait, Braquage à l'ancienne, c'est un remake de Going in Style. Donc si tu as vu le film, tu as dû voir que c'est son titre original.
Ouais, c'est le titre original. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, Going in Style. J'ai pas.
En y allant avec style.
Ouais, avec style,
je pense que, je sais pas, je le traduirais comme ça. Et donc oui, donc c'est un remake d'un film où dedans il y avait d'ailleurs Lee Strasberg, sur qui j'ai fait en partie mon mémoire, qui est un grand homme du théâtre aux États-Unis, qui était à l'Actor Studio, il était professeur à l'Actor Studio. Enfin bref, ça c'est pour l'anecdote. Donc c'est un remake dedans. En gros, je vous raconte l'histoire. On a trois retraités, on peut dire trois octogénaires ou quasi-octogénaires, Willy, Joe et Al, qui en fait se sont fait sucrer leur pension de retraite. Et qui vont décider de braquer la banque qu'ils tiennent pour responsable. Donc voilà en gros pour le pitch. La différence avec le... Alors moi j'ai pas vu la première version, mais pour ceux qui l'ont vu, la différence apparemment c'est que les personnages ici sont beaucoup plus fouillés. On développe beaucoup plus leur histoire. Y en a un, on voit qu'il est très attaché à sa petite fille. L'autre, il souffre de diabète. Pardon. Il a un problème au rein.
Et, ouais, le, il est sous dialyse.
Il est sous dialyse. Et le troisième trouve l'amour sur ses vieux jours. Donc voilà. Et, alors moi, je dois vous dire que c'est un film sans prétention. Je pense pas que... Même si le casting, il est 3 étoiles parce qu'on a...
C'est surtout ça qui fait la différence.
Ouais, on a Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. Donc ça, c'est le trio de choc. Alors voilà, l'histoire, elle n'est pas super recherchée, mais franchement, c'est trop rigolo. Je me suis bien amusée, je ne sais pas ce que tu as pensé, mais moi,
j'ai rigolé, c'était marrant.
Quand j'étais dans la salle, en fait, c'était plutôt étonnant parce que d'habitude, les gens rigolent un peu comme ça. Là, c'était vraiment, ils rigolaient à gorge déployée.
Tu vas dans des cinémas bizarres. C'est très drôle.
Non, mais les gens, on n'était pas nombreux, mais ils rigolaient vraiment à gorge déployée. C'est vraiment un film très drôle. Et j'aime bien aussi le fait qu'on mette en avant des seniors. Je trouve que ça manque un peu au cinéma. Et là, c'est des seniors en plus qui jouent le rôle de seniors, qui ont des problèmes de seniors. Et d'ailleurs, il y a un petit twist à la fin, je le dévoile pas. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais avec le premier braqueur, quand on devine qui est le premier braqueur.
Oui.
Donc voilà, allez-y, c'est plein d'humour, c'est très drôle, le casting est génial. Enfin, moi j'ai bien aimé, on s'amuse.
Mais ça ressemble pas un peu au film avec De Niro et Morgan Freeman, justement, qui est sorti dernièrement, là, Las Vegas, je sais pas quoi.
Alors je l'ai pas vu, mais en tout cas on m'a dit que ça.
Ouais. Mais c'est une comédie parce que quand tu me racontes l'histoire comme quoi il a une dialyse ou je sais pas quoi, ça ressemble exactement. Et puis l'autre qui a un problème avec ses enfants ou
qui a un lien très fusionnel avec sa petite fille.
Ça ressemble un peu à ce film-là.
Bah, alors effectivement, dans les critiques que j'ai pu lire, j'ai lu que... Alors certainement, ça s'inspire du... Enfin, il y a un lien avec le film dont tu parles. Effectivement, c'est un peu du réchauffé. Enfin, on va pas se mentir.
Mais c'est drôle.
Moi, j'ai trouvé ça drôle. J'aime bien ce genre d'humour.
C'est bien ficelé. Bon, après, c'est un feel-good movie.
Ouais, c'est ça.
C'est, là, tu ressors, t'es content, tu souris, quoi.
On
c'est pas le film de l'année.
C'est pas le film de l'année. On s'attend à la fin. C'est prévisible, mais c'est...
Voilà, mais quand tu rigoles, c'est...
Ouais, c'est ça.
Et puis, qu'est-ce que c'est agréable de voir des vrais acteurs, en fait. Là, au moins, tu vois.
Ah, et surtout, c'est très drôle de voir Michael Caine, je trouve, dans ce registre-là. Il fait un peu dandy anglais. Et ouais, là, on le voit dans une comédie qu'il gère très bien, en fait, finalement.
Merci, Cindy.
Bah,
donc,
merci,
tu nous invites évidemment à aller voir Braquage
à
l'ancienne.
Si vous voulez vous amuser, allez le voir.
Allez-y, ça veut dire ça.
Et puis, Nouradine l'a vu.
Et puis, Nouradine l'a vu, donc.
Ça veut tout dire.
Allez, vous avez reconnu le rire diabolique de Julien Denervaux pour sa chronique Agenda. Jingle.
Les rendez-vous culturels du week-end avec Julien, c'est tout de suite dans Marmite fait son actu.
Salut Julien.
Salut à tous.
Tu viens d'apprendre que t'avais un rire diabolique.
Oh, oui, voilà, c'est ça. Non mais bon, ça confirme ce que je voulais faire. Je voulais faire venir mon hologramme aujourd'hui vu que c'est un peu à la mode. La prochaine fois, je ferai ça. Bon alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les enfants, eh bien, on commence cet agenda culturel par un événement qui se passe demain soir. Et oui, c'est l'anniversaire d'un ancien pote à moi. Enfin, oui, c'est un ancien parce qu'on se voit plus. Mais donc du coup, je lui souhaite un joyeux anniversaire en avance parce que ça porte malheur. Alors... Jeudi, on a un concert d'électropop à la batterie à 20h30 avec en première partie After Marianne. Donc c'est de la musique un peu rêveuse, planante, cinématographie dans l'univers de la pop électro. Et en invité phare, c'est fameux Julian, comme appelé comme vous voulez, Peretta, voilà. Parce que...
Peretta.
Ouais, Julian Peretta, exactement.
C'est pas Beretta ?
Non, Beretta, c'est autre chose.
Beretta, c'est...
Toi, t'es resté à Braquage à l'ancienne.
C'est Julian Peretta, et donc, bah, tout le monde le connaît, hein, depuis ses succès, Miracle, I Cry, ou encore Karma, Julian Peretta est aujourd'hui incontestablement devenu le nouveau visage de la musique pop électro. Oui, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Bref, allez, on continue cet agenda culturel avec vendredi et samedi 13 mai. On a le fameux concert Metal Sphere. Nos amis de Metasos qui vous proposent deux jours de folie autour du métal de 20h à 1h du matin. Chaque soir, à la salle de la tour à Voisin, le Bretonneux. Voilà, donc deux jours de folie en indoor avec beaucoup, beaucoup de choses, et surtout des groupes, puisqu'il y a une dizaine de groupes, dont Face Down et Inner Reflection, qui est plutôt très connu dans le monde du métal. Tu connais, Julien ?
Non, pas du tout.
Ah, mais tu connais pas du métal aussi ?
C'est du métal français ?
Ouais, non, c'est du métal, métal.
Ouais.
C'est du métal en acier. Bon, bref, tu connais pas.
Non, je connais pas.
En tout cas, c'est connu, tu iras voir. Ils ont un super clip qui a fait un carton sur YouTube, s'appelle Inner Reflection. On continue vendredi 12 mai. Si vous n'allez pas au concert de métal, comme Cindy, vous pourriez aller voir Les Pétitions des Corps. C'est un spectacle de danse. Ça se passe à la ferme de Bel et Bas à 20h30. Et c'est un duo de jeunes chorégraphes un peu fougueux qui questionnent avec leur création, justement, le romantisme. Voilà, qu'est-ce que c'est le romantisme ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours parler de romantisme ? Comme avant, c'est la question de ces jeunes chorégraphes. Samedi 13 mai, on change, on s'éloigne un peu du romantisme et on va taper un petit peu plus dans le Human Beatbox, yeah, avec le groupe Naturalis 7 à la Meurise à Trappe à 20h30. Donc c'est... T'as l'air de connaître,
ça,
Julien.
Ça, je connais par contre.
Ah voilà,
et ça c'est pas mal.
Ça c'est pas mal, ouais. Il mélange un peu le hip-hop, la soul, le R&B, le gospel. C'est un peu novateur.
Le R&B.
Ah oui, pardon. Allez, samedi cette fois à 20h30 et attention, supplément dimanche à 16h30, vous avez le concert des chœurs de la Pléiade à Montfort-l'Amaury à l'église Saint-Pierre. Et enfin, on termine dimanche 14 mai avec les amateurs de cinéma qui pourront aller découvrir chez Gaël au grenier à sel à Trappe, oui, à 15h, Le potager de mon grand-père. Alors ça, c'est le titre du film, hein, vous ne pourrez pas vraiment voir Le potager de mon grand-père. À 16h45, vous pourrez voir ceux qui à l'effigie de Fred et Nouradine dans cette marmite. Ce sont Boule et Bill, numéro 2 avec Manu Payet et Franck Dubosc.
Vous waouh. Vivement que j'aille voir ce film.
Bah, peut-être que Cindy en parlera, on verra. Et à 18h30, vous avez le film Gold et à 21h, La jeune fille et son aigle réalisé par Otto Bell, le frère de Jingle. Jingle Bell. Bref, allez. On se retrouve ce soir pour d'autres blagues dans ce style de 20h à 21h voilà, avec,
ta promotion,
avec
ta
Cindy dans l'anti-sèche et Fred justement qui est à la technique. Donc sur Marmite FM.
Merci voilà. Julien, mais c'était très drôle, j'ai beaucoup apprécié le rare NB, c'est pas mal. Merci tout le monde, merci à Fred et Yusré à la technique, on se retrouve mercredi prochain à 17h en direct pour un nouveau Marmite fait son actu, bonne soirée.
Marmite fait son actu, tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.